10 janvier 1944, rue Adrien Beslens, Bordeaux. Il fait nuit. Il est 21h. Je me rappelle, j'habitais ici. Au début, j'allais chercher le lait en bas, dans la première rue à gauche, une porte cochère. Ensuite, je n'ai plus eu le droit de sortir. J'étais seul toute la journée dans une maison confortable, mais silencieuse et vide. J'étais seul, sans radio, et je ne savais pas lire. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, c'était tôt le matin quand j'ai été arrêté, la rue a été barrée de chaque côté par des soldats en armes. C'était des Allemands, mais j'ai été arrêté par la police française. Il y avait des camions en travers de la rue, et puis, devant la porte, une traction avant avec des inspecteurs en civil, des inspecteurs français qui étaient là pour arrêter un enfant de 6 ans et demi. J'en ai alors conclu que j'étais quelqu'un de très important, ce qui m'a rendu mégalomane pour le restant de ma vie. C'était donc au petit matin, cette nuit-là. J'habitais chez les Farge. J'avais 6 ans et j'étais dans mon lit lorsque j'ai été réveillé par des bruits dans la maison. Il y avait beaucoup de monde dans le couloir. J'étais frappé par cette présence de soldats et d'officiers, et surtout de policiers français en civil, avec leurs lunettes noires, leurs chapeaux et leurs revolvers. Je trouvais absurde qu'ils aient des lunettes noires la nuit. En définitive, les revolvers ne me faisaient pas peur. Mais porter des lunettes noires la nuit, ça m'intriguait. J'ai alors pensé que les adultes n'étaient pas des gens très sérieux. Je n'ai d'ailleurs pas changé d'avis depuis. Et dans le couloir, il y avait aussi des soldats allemands en armes qui semblaient gênés puisqu'ils regardaient le plafond. Ils regardaient en l'air. Peut-être, j'espère, parce qu'ils avaient honte d'arrêter un enfant de 6 ans et demi. J'espère que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr. Je me rappelle bien de la scène, je la revois encore. La rue barrée par les soldats allemands et des policiers français. Là devant, les tractions avant, et plus loin, des camions remplis de gens. On m'a alors demandé de monter dans une traction. On m'y a poussé. Et dans cette voiture, j'ai été surpris parce qu'il y avait déjà un homme à l'intérieur qui pleurait. Je le regardais pleurer et j'étais fasciné par sa glotte. Il avait une grosse glotte qui montait et qui descendait. Quand il pleurait, sa glotte s'agitait et je trouvais ça très intéressant. Je me rappelle très peu de l'arrivée à la synagogue. Si, à l'entrée au milieu, il y avait un officier allemand. Comme dans les mauvais films, il se tenait les jambes écartées avec une badine. Et puis il y avait 2 tables, et à l'une d'entre elles, quelqu'un que je connaissais. L'officier allemand orientait vers une table ou vers l'autre, et j'entendais les adultes discuter autour de moi. Une table condamnée à mort, mais on ne savait pas laquelle. L'autre condamné au travail forcé, à la prison, à la survie, mais on ne savait pas non plus laquelle. Chacun avait son interprétation. À l'une des 2 tables, j'ai donc reconnu celui qui notait les sélectionnés pour vivre ou pour mourir, car je l'avais déjà vu chez Margot, quand il lui avait rendu visite en uniforme de scout. Quand je me suis approché de lui, il a sursauté et a aussitôt quitté la table. J'ai alors compris que c'était lui qui m'avait dénoncé. Tous les soirs, un soldat allemand venait s'asseoir auprès de moi. Je crois me rappeler qu'il avait un uniforme noir et une casquette plus élaborée, un officier peut-être. Il me montrait des photos d'un petit garçon de mon âge, et ce soldat me faisait comprendre par geste que son fils me ressemblait. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il me disait. Mais je saisissais pourtant ce qu'il voulait me dire. Je me souviens de l'étonnement que j'ai éprouvé en pensant que cet homme qui organisait ma mort venait me parler gentiment. Cette scène m'est souvent revenue en mémoire, sans angoisse, comme une énigme. Les hommes peuvent donc se conduire ainsi. Au moment du transfert vers les wagons pour Drancy, le même soldat donnait des ordres qui menaient à la mort. Je savais que nous allions mourir, car comme je fouinais partout, j'avais entendu parler les livreurs des cartons de boîtes de lait condensées. Ils disaient que les wagons qui allaient nous emmener étaient scellés. Comme ils le disaient d'un air grave, je comprenais que c'était grave. Et comme je ne connaissais pas le mot « scellé », je pensais que les wagons étaient salés et que ce devait être une bien cruelle torture. Il fallait que je m'enfuie. J'avais déjà fait plusieurs tentatives d'évasion qui avaient échoué. J'avais suivi des adultes tentant de s'évader par les fenêtres, mais ça n'avait pas marché. En fait, je suis certain que j'avais compris ce qui m'attendait. Comment ai-je ensuite réussi ? Je me le demande encore. Comme les fenêtres étaient trop hautes, bien surveillées et que j'étais petit, j'ai trouvé la solution de me faufiler, de grimper et de me cacher dans un petit trou. Et ça, ça a marché. Je me suis caché dans les toilettes, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Ensuite, j'ai attendu qu'il n'y ait plus de bruit, et quand la synagogue est redevenue silencieuse, je me suis laissé tomber, et je suis sorti tranquillement, puisque tout était ouvert. Des soldats étaient en train de repartir. En face, un groupe de Français discutait, probablement des gestapistes. Mais personne ne m'a rien dit. Pas un ne m'a empêché de m'enfuir. Je suis passé à côté d'eux, tranquillement. En réalité, je ne sais pas si j'étais tranquille. Aujourd'hui, je dis tranquille, mais à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai pu ressentir ? Je sais que je suis passé à côté d'eux, que la porte était ouverte, que tous les prisonniers étaient déjà dans des cars, partis vers la gare Saint-Jean, vers Drancy, vers Auschwitz. Moi, il m'a suffi de sortir. Dans mon souvenir, le perron est immense, il y a de longues marches à descendre. Dans mon souvenir, la cour est une esplanade très longue, très large. Dans mon souvenir, cette grille... Tiens, cette grille, je ne l'ai pas dans mon souvenir. Dans mon souvenir, le long du trottoir, il y avait une ambulance, et près de cette ambulance, Madame Descoubès. Elle était donc infirmière de la Croix-Rouge, en train de secourir une dame qui avait reçu un coup de crosse, qui allait mourir. Et elle m'a vu. Comme il y avait beaucoup de monde, ils ne m'ont pas remarqué. On ramassait la dame. Et, dans mon souvenir, c'est à ce moment-là que Madame Descoubès m'a fait signe. J'ai alors couru et plongé sous le matelas sur lequel on avait étendu la mourante. Quand je vois aujourd'hui que l'esplanade est minuscule, le perron tout petit et que cette grille s'ouvrait pour laisser passer l'ambulance, tout ceci me semble incroyable. Depuis, la dame blessée m'a téléphoné, car elle n'est pas morte. En fait, sous le coup qu'elle avait reçu, sa rate avait éclaté, elle a été opérée et a survécu. En définitive, si cette dame n'avait pas risqué mourir d'une hémorragie interne, elle aurait été déportée à Auschwitz. Dans mon souvenir, un autre détail m'intriguait. Au même instant, un officier allemand était monté dans ce que je croyais être l'ambulance, puisqu'une infirmière officiait à côté. Or, quand j'ai rencontré Madame Descoubès, elle a éclairé ma mémoire. « Mais non, m'a-t-elle dit, ce n'était pas une ambulance, c'était une camionnette. » Pour des raisons de cohérence, j'avais donc eu besoin de reconstruire un souvenir logique. Puisqu'elle était infirmière, ce véhicule ne pouvait être qu'une ambulance. Et puisqu'un officier allemand était monté dans la camionnette, qui alors s'était éloigné, il fallait logiquement que ce soit lui qui ait donné le signal du départ. Là encore, ma reconstruction ignorait la réalité. Lorsque la dame qui avait été sauvée en risquant mourir m'a téléphoné, elle m'a détrompé. Pas du tout, cet officier n'a donné aucun ordre. C'était le capitaine Meyer et il est parti en disant qu'elle crève ici ou ailleurs, ce qui compte, c'est qu'elle crève. Or, je n'ai pas du tout le souvenir de cela. Au contraire, dans le remaniement de mon histoire, j'avais probablement besoin de penser qu'il y avait toujours des hommes indulgents, quelles que soient les circonstances. Je n'ai donc pas entendu cette phrase, ou je l'ai oubliée, et cet oubli a donné une cohérence à mon récit. En fait, c'est le faux souvenir qui a rendu mon récit cohérent, puisque le réel était folie. Il m'avait donc fallu trouver une cohérence partageable. Puisque c'était une infirmière, le véhicule était naturellement une ambulance. Et puisque l'ambulance était partie, cet officier ne pouvait être qu'un gentil Allemand. Or, rien de tout cela n'était vrai. J'ai très souvent entendu des enfants ou des adultes m'expliquer leur survie de cette manière. Je pense que le remaniement du passé est un facteur de résilience et que ceux qui n'adoptent pas un tel point de vue restent prisonniers de leur histoire. Ils ne voient et ne vivent que l'horreur du réel, la blessure intérieure, l'inquiétude, l'angoisse. Ils sont à jamais prisonniers de leur passé, alors que ces faux souvenirs, mêlés à des traces souvent plus précises que les archives, témoignent d'un remaniement des représentations qui permet au sujet de retrouver espoir. Tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a toujours une solution possible. Il ne tient qu'à toi d'être libre. Beaucoup d'enfants abandonnés me confirment que dans ces moments terribles, ils étaient toujours à l'affût de la beauté, même au milieu des pires atrocités. Au Rwanda, au paroxysme de l'horreur, des gens écrivaient des poésies. En plein drame, ils allaient voir des écrivains publics pour leur dicter l'atrocité de ce qu'ils vivaient, de façon à ce que leurs petits-enfants puissent un jour lire ce qui s'était passé. Il y a des gens qui ont le talent de provoquer la chance. Moi, je n'en ai pas toujours eu. Ce jour-là, oui, on peut dire que j'ai eu de la chance. Mais je l'ai provoquée. Je l'ai fait sourire, la chance. Et elle m'a souri. Dans la vie, ça n'arrive pas toujours. Mais ce jour-là, la chance m'a souri.